Émilie, de quoi on va parler ce matin? Parce que là, Pasteur Christian nous a demandé de parler des couples, parler des relations. Mais de quoi on devrait parler? T'as-tu une idée?
En plus, c'est pas comme si on avait vraiment du temps de couple.
T'as tellement raison, c'est vrai. Hein?
On a des jeunes enfants, okay, un bébé. Il me semble qu'on n'est pas les meilleurs pour parler de couple. Hein?
C'est vrai. Hein? Puis en même temps, parler aux couples, mais il faut parler aux célibataires. Il n'y a pas juste les couples dans la vie, hein? C'est vrai. Il ne faut pas oublier, les célibataires sont là, sont dévoués, surtout à notre église, puis ont besoin qu'on les encourage. Hein, c'est vrai. S'adresser. Mais tu sais, il y a des gens qui sont veufs, qui étaient mariés, mais maintenant que leur épouse est décédée,
pour en parler. Tu veux parler de la mort?
Non, mais...
C'est lourd.
Oui, mais pas de la mort, mais tu comprends? Il faut en parler quand même, encourager ces gens-là. Moi, j'y pense, il faut y penser. Je sais, on pourrait parler de sexe.
Il ne faut pas oublier que nous, notre lit conjugal, de ces jours-ci, est pas mal envahi par nos enfants.
Ah, ben je sais, on va parler de la Bible.
Ah,
la Bible.
Bonne idée, on est à l'église.
Ben oui, on est à l'église quand même, madame la spirituelle. 1 Corinthiens 13, passage qu'on connaît, vous l'avez déjà lu dans les mariages, un passage qui parle de l'amour. Hein? 1 Corinthiens 13, 1 à 13. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est essentiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ce passage a été souvent utilisé au niveau du cinéma, dans la culture populaire, même dans des chansons populaires, le passage de Corinthiens 13. Et vous l'avez sûrement déjà entendu dans un mariage, le pasteur utilise souvent ce texte-là, c'est un beau texte qui parle de l'amour. Mais si on revient au contexte de ce texte-là, c'est lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, c'est une église qui est très multiculturelle, où il y a plusieurs personnes avec différents backgrounds. Il y a des Juifs qui, eux, croyaient en l'Ancien Testament, qui se sont convertis tout d'un coup au christianisme. Il y a des Grecs, il y a des Samaritains. Donc, c'est une église qui est très multiculturelle, diversifiée. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, des gens qui ont peu de moyens. C'est vraiment une église qui est très diversifiée. Et l'apôtre Paul est intentionnel pour leur dire, vous savez, malgré vos différences, malgré les chicanes, malgré l'impureté sexuelle qui régnait beaucoup dans la ville de Corinthe, qui est très comparable à plusieurs villes, où ce que la sexualité était un peu n'importe quoi et désordonnée, l'apôtre Paul leur dit... L'important, c'est l'amour. C'est que tu dois aimer ton prochain. Fait que c'est pour ça que souvent on utilise ce passage-là. Parce que dans le couple, des fois, on n'est pas toujours en désaccord. On a notre background, on est différent. Mais ça s'applique très bien au couple et à la vie en général entre chrétiens. C'est que même si on a des différences, on doit se rappeler l'amour. Et lorsque Paul parle, il parle métaphoriquement, il parle de l'amour, il parle de Jésus. Jésus qui est cette représentation parfaite de l'amour. Donc si tu aimes ton prochain, tu vis à la lumière de Jésus. Et Jésus nous a appris à pratiquer l'amour inconditionnel qui a été essentiel à notre rencontre.
Donc, on est mariés depuis 13 ans et en couple depuis 15 ans. Et notre chemin n'était pas tracé d'avance, dans le sens qu'on n'a pas grandi avec des parents en couple comme modèle. Tous les deux, on vient d'un milieu avec une mère monoparentale. Donc, il a fallu apprendre à vivre en couple, à savoir ce que c'est. Hein? Donc, pas de modèle de famille parfait. Et pour que notre couple soit fondée sur Jésus et en règle et qui fonctionne bien, il a fallu qu'avant d'être en couple, que notre vie personnelle soit fondée sur Jésus. Et avant d'être en couple, alors que j'étais célibataire, je priais et j'espérais un couple qui fonctionne bien. Alors, j'ai pris un moment de prière et j'ai fait une liste de ce que j'aspirais pour mon mariage, pour mon futur époux. Donc, j'ai fait une liste avec des valeurs importantes, comme par exemple, je voulais qu'il serve Dieu, je voulais qu'il aime Dieu en premier, qu'il aime Dieu de tout son cœur, quelqu'un qui soit serviable, quelqu'un qui soit attentionné, quelqu'un de beau, bien entendu, hein, l'attirance physique est importante. Après, après, c'est sûr que on va pas dans, j'ai pas fait une liste détaillée, mais tu sais, l'attirance physique est importante et aussi des affinités personnelles. Par exemple, j'aime bouger, j'aime faire du sport, mais là, j'ai pas écrit des choses comme « il faut qu'il patine » parce que on serait pas ensemble aujourd'hui. Non. Il aime pas patiner.
Pas du tout. Mais j'ai fait notre demande en mariage en patin, je tiens à souligner.
Oui.
Je fais des efforts.
Oui.
C'était très
long. C'était un beau moment. C'était un beau moment marquant. Donc, on est, oui, on a l'affinité de, on aime faire du sport ensemble. Donc, après, c'était pas très important les détails de quel sport. Et tout ça pour dire que j'ai fait une liste qui était dirigée par Dieu dans un moment de prière pour que vraiment mon futur mariage, mon couple soit fondé sur Jésus et d'avoir une direction claire aussi pour pas être dans une direction floue puis avoir un mariage flou.
Puis justement, moi j'aime bien ce concept-là du vert, jaune, rouge. Je pense que j'ai déjà partagé. Hein? C'était cette image que la foi chrétienne, et ça s'applique très bien au célibat ou aux relations en général, la foi chrétienne, des fois, c'est t'es dans le vert. Ça va bien. Super bien, tout va bien, la vie va bien. Spirituellement, tu pètes le feu, tout va bien, c'est extraordinaire. Mais des fois, tu es dans le jaune. Tu dis, ouf, c'est pas le paradis, ça va pas super bien, mais je sens que je suis étiré, je vis une période où, ouf, je suis entre les deux, là. Et des fois, on a des moments difficiles. On est dans le rouge, la vie va bien, il y a des saisons difficiles, il y a des choses qui, c'est plus tough. Et dans un couple, on vit ça aussi, tu sais, des moments difficiles, et aussi en tant que célibataire. Moi, je me rappelle, pour notre début de vie de marié, on venait de commencer à être ensemble, on avait quelques dettes, là, puis c'était un moment difficile pour nous, là. C'était comme, wow, c'était pas catastrophique, on n'avait pas des dettes de 100 000 $ mais moi, je regardais ça, puis je me dis, si on ne fait pas attention, on va être dans le rouge, puis on le sait, hein, les finances, c'est une grosse cause de divorce. Donc, moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, wow, on est dans le jaune présentement, il faut qu'on fasse quelque chose pour pas être dans le rouge, ça soit catastrophique. Et je suis allé demander de l'aide. Je suis allé demander de l'aide à un pasteur de notre église que je savais que lui pouvait nous aider, puis il nous a connecté avec quelqu'un qui nous a mentoré pendant les 13 dernières années, vraiment nous accompagner à avoir une meilleure santé financière, puis on a vu une grande différence depuis, on a été demander de l'aide. Mais il faut aussi être intentionnel. Je pense que lorsque tu es célibataire, si tu as déjà des problèmes, par exemple avec les finances, de déjà prendre l'habitude d'aller demander de l'aide pour te préparer pour ton futur couple. Parce qu'il y a des dettes que moi j'avais amenées dans mon couple. Et si célibataire, j'avais prévenu mes choses, j'avais été à mon affaire, je n'aurais pas amené ce fardeau-là dans mon couple. Par exemple, si vous avez des enfants, vous n'êtes pas nécessairement dans le rouge, mais il y a des saisons difficiles où ce que les enfants prennent de la place. Des enfants, ça peut prendre de la place dans un couple et on peut le voir. Hein? Ça peut amener des tensions, ça peut amener des chicanes. Donc des fois, aller demander de l'aide par rapport à comment avoir de l'aide avec tes enfants, d'avoir des amis, des pasteurs, des gens pour t'encourager, ça peut aider. L'horaire, les tâches ménagères, la routine en général, que tu sois célibataire ou en couple, on vit métro, pas à Québec, moi je viens de Montréal, là, mais auto, boulot, dodo, tu sais, la routine, ça vient vite, puis on a des fois la misère à connecter, tu sais. Fait que quand on vit tout ça de la routine, des fois ça peut être, ouf, on perd le recul, puis tranquillement on est dans le jaune, mais on se perd, on peut facilement devenir dans le rouge. Faut être intentionnel par rapport à ça.
Puis nous, dans nos moments difficultés là, de couple, qu'on est vraiment passé de jaune, de vert jaune à rouge, pendant environ 7 ans, on a été dans le défi de l'infertilité. Donc, ça a été vraiment un gros défi au niveau du couple. Ça nous a pris 4 ans avant d'avoir notre fille Gloria. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Gloria. Et ensuite, encore, on a été dans toute cette épreuve-là avant d'avoir notre fils Luca. Et pour nous, ça a été vraiment de passer de des beaux moments, de vert, on est heureux, des tests positifs à jaune, à des fausses couches, à des suivis médicaux. Donc, à travers cette épreuve-là, on a passé à travers toutes sortes d'émotions et on a été soutenus par la prière, par des soutiens psychologiques, des pasteurs, des amis, et ça nous a aidés à se rapprocher l'un de l'autre aussi et à être un couple plus fort aujourd'hui et à dépendre de Dieu aussi dans cette épreuve-là énormément et de la prière. On a passé des moments de prière là-dedans dans cette épreuve-là, dans la louange et la prière qui nous a vraiment fortifiés.
C'est tellement vrai ce que tu dis, Billy, parce que j'ai l'impression que des fois, en tant que chrétien, on vit des fois sur une autre planète. On pense que quand tu es chrétien, ça va toujours bien aller. Tu n'auras jamais de moments difficiles, mais tout le monde va en avoir des moments difficiles. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ces moments difficiles-là? Est-ce que ton réflexe, ça va être d'aller prier, de développer une vie de prière personnelle et en couple aussi, de prier? Les statistiques le prouvent, que les couples qui prient ensemble restent ensemble. C'est prouvé. Vraiment, les statistiques le prouvent. Les couples qui prient ensemble régulièrement restent ensemble. Et nous, on n'a pas le temps de prier une heure par jour ensemble, pas du tout, là. Mais on est intentionnel de dire, une fois qu'on, de temps en temps, avant de dormir, on se tient la main et on prie ensemble l'un pour l'autre. On prie pour notre couple, on prie pour nos enfants. Ça peut durer 2 minutes, 5 minutes, mais juste de le faire régulièrement, sur une base régulière, de développer cette habitude de prier ensemble, ça peut avoir un impact plus grand que tu le penses sur ton couple. Et aussi, il y a cette notion d'engagement. On vit dans cette société, je m'engage pour un temps, si ça ne marche pas, bye bye, hein? avec tout, là. Mais si tu es célibataire, déjà même de te préparer, de dire, la personne avec qui je vais être plus tard, je vais m'engager avec elle. Je suis dans une notion d'engagement. Pas de, ah, ben si ça ne marche pas après un an, ben bye bye, je change de personne. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ni dans le couple, il y a cette notion d'engagement, de dire, on est ensemble, on est engagé. Le divorce n'est pas une option. Nous, là, c'est ça, c'est nos phrases qu'on aime se répéter. Le divorce, ce n'est pas une option. Puis qu'on est ensemble. Puis je veux aller avec cette notion d'engagement pour qu'on puisse comprendre. Cependant, il y a un astérix. Il y a des fois, dans un couple, il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir un problème de dépendance qui ne change pas. Oui, le divorce, dans ce cas-là, peut être considéré. Ça, c'est important. Je vais mettre l'astérix aussi, parce que des fois, on vit sur une autre planète, les chrétiens, et si vous avez des questions là-dessus, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Mais c'est important de comprendre que pour nous, ce qui est important, c'est la notion d'engagement. Donc, lorsqu'on est en couple ou qu'on est célibataire avec Dieu, on s'engage et on se prépare à s'engager. Parlons justement de quelque chose qui nous amène vers le vert. Parlons sexualité.
Alors, il y a un livre qui nous avait été conseillé au début de notre mariage, qui ne parle pas juste de sexualité, là, en passant. C'est L'amour et le respect. Donc, il parle que la femme a besoin d'amour et que l'homme a besoin de respect. C'est un livre chrétien que je vous conseille fortement à lire.
Très bon.
Très bon livre. Et là-dedans, il y a un chapitre qui s'adresse à la femme, qui parle de, justement, la sexualité. Je vais vous lire un extrait. « Ils n'avaient pas un mariage heureux. Ils étaient dans un cycle infernal. Celui-ci tournait autour de son ultimatum à elle, posé quelques années auparavant. Elle ne lui répondrait sexuellement que lorsqu'il lui répondrait à ses besoins émotionnels. » Elle voulait épancher ses émotions, elle voulait qu'il lui parle face à face, et il ne répondrait pas à ses besoins émotionnels. Elle ne répondrait pas à ses attentes sexuelles. Après tout, c'est ainsi que marche l'amour, non? Donc l'auteur ici est en train de nous parler de ce cycle-là infernal où elle ne veut pas avoir ce rapprochement sexuel et répondre à ses attentes sexuelles parce que si lui, il ne a pas ses moments face à face. Hein. Donc, on parle ici d'un cycle infernal. On est pris dans un cycle infernal parce que chacun a ses besoins. On a nos besoins différents. Et il donne je vais vous lire un autre extrait un peu plus loin. Il parle à la femme, qui parle de un peu de la femme qui a un contrôle, qui prend un contrôle, de la manipulation. « Mesdames les épouses, que se passerait-il si votre mari ne vous parlait pas pendant 3 jours, 3 semaines ou 3 mois? » C'est quand même, hein? Tu dis, il me semble que c'est pas une situation qu'on pourrait entendre, là, tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, mon mari, arrêtez de me parler, ça fait 3 mois, ça fait 3 semaines », mais on peut entendre, c'est déjà arrivé d'entendre ça, une femme qui refuse de répondre aux attentes sexuelles de son mari pendant 3 semaines parce qu'elle boude. Alors, ici, on parle de ce cercle-là qui est constant, d'un cercle perdant par perdant. Donc là, l'auteur nous donne des conseils. Comment passer d'un cercle perdant-perdant, où les deux sont perdants, à un cercle gagnant-gagnant? Donc, quelques conseils aux femmes de répondre plus souvent aux besoins sexuels et de prendre des initiatives. Il va aussi dire de comprendre le besoin exutoire en matière de sexe pour l'homme et comprendre que c'est équivalent à nous, notre besoin émotionnel, de se libérer émotionnellement. Et de ne pas obliger son mari à se confier à nous en le privant de sexe, bien entendu, d'une certaine forme de manipulation.
Puis, Astérix aussi, bien sûr, ça peut arriver que l'homme boude la femme, hein, ça peut arriver dans les deux sens aussi. Mais le livre est intéressant parce que ça donne, bien sûr, généralement ce qui arrive et la manière qu'on est fait, l'homme et la femme, on est conçus différemment. Puis moi, je vais vous ouvrir mon cœur ce matin sur justement ce sujet-là. Ça me parle parce que moi, j'ai beaucoup appris avec les 13 années de réaliser à quel point, moi, lorsque j'étais un mari présent, physiquement, bien sûr, mais émotionnellement, intellectuellement, lorsque je répondais à ses besoins, tu sais, qu'elle a en tant qu'épouse, naturellement, notre vie sexuelle allait bien. Et notre couple allait bien. Puis c'est pas une manipulation, c'est « Oh mon Dieu, je vais être un bon mari gentil parce que je vais avoir du sexe, là. » C'est pas ça le but. Mais c'est juste que je réalisais à quel point, Dieu a créé la sexualité. Puis ça fait partie du puzzle, ça fait partie du casse-tête lorsque, justement, moi, je réponds à ses besoins, je réponds à mes besoins, et le couple va bien, puis le couple est épanoui. C'est incroyable, justement, lorsqu'on répond chacun à nos besoins, comment ça va bien, il y a une bonne chimie, puis nos enfants voient ça. Et c'est ça qui fait qu'on est capable d'avoir des couples. Quand la Bible parle dans l'Ancien Testament de génération en génération, c'est avec des petites habitudes comme ça que ça a un gros impact. Il y a un pasteur aux États-Unis que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ed Young, qui a écrit un super bon livre qui s'intitule « Sexperiment ». C'est une expérience qui invite les couples chrétiens, les couples mariés, bien sûr, à avoir de la sexualité pendant 7 jours. Faire de la sexualité pendant 7 jours de suite, OK? Et Ed Young, il dit justement, ça peut aider votre couple à raviver le couple, etc. Et il dit, faites-le pendant 7 jours. Et c'est super bon parce que ça nous force à dire, OK, mais ça force à répondre aux besoins l'un de l'autre. De dire, oui, mais il n'y a pas juste la sexualité, il faut que tu répondes aux besoins de l'autre. Messieurs, faites un effort pendant 7 jours d'avoir la sexualité avec elle. Vous allez être capable, messieurs, concentrez-vous, je le sais, mettez-la à votre horaire. Je sais que ça va être difficile pour vous, ça vous demande physiquement, mais messieurs, faites un petit effort. Mesdames, faites un effort de juste l'écouter un peu plus. Il revient du travail, il a toujours besoin de parler, vous le savez. Il ne s'exprime pas toujours, il n'exprime pas toujours ses émotions. Écoutez-le, mesdames, faites-le, faites un petit effort. Vous allez voir, ça va être bénéfique pour votre couple. Justement, parlons de raviver le couple. Comment on peut raviver le couple, justement, passer du rouge au jaune, des fois, ou juste avoir des idées pour garder le couple en santé. Des idées, Émilie, qu'est-ce qu'on peut parler? Des idées pratiques, là.
On aime marcher ensemble.
Ah, marcher ensemble, ça, c'est une bonne idée. Faire des activités en général, mais aller déjeuner.
Oui, ça, on aime ça, aller déjeuner.
Déjeuner, dîner ensemble.
Des moments ensemble sans écran, sans nos téléphones, sans la télévision.
Ça aide à connecter, ça, c'est vrai. C'est peut-être un bon point.
Aussi sans enfants.
Oui, parfois, oui, faire garder, alléluia. Être ensemble physiquement, lire chacun de son côté.
Oui.
Moi, j'aime ça. Man zone, je suis là, je suis avec ma femme, mais en même temps, j'ai mon moment où je lis un bon livre. Ça fait du bien. Oui.
Ou être juste côte à côte. Oui. C'est ça, lire chacun de notre côté ou lire ensemble. Moi, c'est ça que j'aime, lire ensemble.
Hein?
Et faire une nuit à l'hôtel.
Oui, une nuit à l'hôtel. Il y a un couple là, qui est marié depuis 45 ans de notre église. Ils m'ont dit dernièrement, ils sont partis, ils ont fait une petite ride sur la Gaspésie. Ils ont été dans une auberge. Je trouvais ça beau. Après 45 ans de mariage, j'étais comme, waouh, je trouve ça cool. Fait que ça m'inspirait.
Il y en a qui ont des idées. Hein, des idées, qu'est-ce qui pourrait nous raviver là, la flamme du couple?
Des activités que vous faites en couple, là? Chaud en parachute, okay. Oh, j'aime ça,
Sam! On va venir te voir.
Donc, il va devoir le faire, hein, Sam, je suis témoin, j'aime ça. Ça, en parachute, en couple. C'est une bonne idée, Émilie, vous connaissez ça.
Oui,
d'autres idées, des couples? D'autres idées?
Oui.
Oui. Faire de la moto ensemble. Il y a un autre couple aussi qui n'est pas là ce matin, qui font de la moto, je vais vous les présenter. Très bonne idée, c'est bon, j'aime ça. D'autres idées, des couples? Pour nos célibataires, là, ça va les aider à se préparer plus tard. Là.
Les jeunes couples.
Oui. Des jeunes couples?
Oui, des fois aussi, c'est bien de refaire des activités qu'on a faites au début.
Mais oui. Alain, Val, là?
Oui, un petit conseil.
Je me mets sur le spot, mais s'il y en a un qui vous vient. Oh, c'est bon!
OK.
Soirée costumée, j'aime ça!
c'est bien.
C'est bon. Bonne idée.
Libre à vous, libre à vous.
J'aime ça, bonne idée. En conclusion.
Juste Valérie pour dire ça.
Je vais. j'aime ça. Je vais partager ce texte qui parle justement, c'est Jésus qui raconte l'histoire de deux maisons. C'est pourquoi, le verset va apparaître à l'écran, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents soufflaient avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Je vais justement inviter Val et Marjorie à venir s'installer. Mais Jésus, quand il raconte cette histoire-là, s'il raconte l'histoire de deux hommes, un qui a bâti sa maison sur le roc, un autre qui a bâti sa maison sur le sable. Et justement, il y a eu une tempête qui est arrivée. Justement, sur les deux maisons, il y en a une qui est restée parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Et Jésus, lorsqu'il parle du roc, justement, il parle de lui. Il parle de lui qui est le rocher solide. Que si tu bâtis ta maison sur lui, si tu bâtis ta vie, justement, sur lui, tu vas simplement avoir des bénéfices. Si tu es célibataire, je t'invite à bâtir ta vie sur Jésus. C'est la meilleure chose que tu peux faire. De bâtir ta vie sur lui et ça va se poursuivre dans ton couple. Et si tu es en couple aujourd'hui, si ta vie est bâtie sur Jésus, c'est la meilleure chose que tu peux faire, puis je te le conseille. Et si peut-être que ton couple ça a peut-être besoin de rénovation aussi, que tu dis, oh, il me semble qu'on est spirituellement, là, on est plus vers le orange-rouge, là, on a besoin de rebâtir notre couple sur Jésus, de faire des rénovations. Aujourd'hui, c'est un bon moment pour dire, je veux rebâtir mon couple sur Jésus. Je veux rebâtir ma vie sur Jésus. C'est la meilleure chose qu'on aurait pu faire. Puis je le dis en toute humilité. Puis pour moi, c'est toujours un rappel à chaque jour quand je prie de prier pour mon couple, de me dire, Seigneur, je ne suis pas parfait. Je suis tellement un mari imparfait. J'ai tellement de défauts. Mais Jésus, aide-moi à bâtir ma vie, bâtir mon couple, ma famille, sur toi.
Puis on voulait vous parler d'une amie qui, elle, a bâti sa vie sur Jésus. Parce que oui, ce matin, on parle du couple, mais le mariage n'est pas une idole non plus. Il faut bâtir sa vie sur Jésus avant tout. Et notre amie Séverine, elle est célibataire et elle est un exemple pour plusieurs célibataires d'une femme qui rayonne, qui ne se laisse pas abattre par son célibat, qui a décidé de vraiment servir Dieu malgré tout et de saisir la vie. Elle a vraiment compris aujourd'hui, elle rayonne et elle fait le ministère et son témoignage et sa vie rayonnent Dieu et elle est un exemple que ça se peut d'avoir une vie épanouie en étant aussi célibataire.
Puis avec les années, nous, ça fait 13 ans qu'on est mariés, 15 ans qu'on est ensemble. Puis je me rappelle lorsqu'on faisait le cours de préparation au mariage, ils nous disaient les statistiques. Ils nous disaient que souvent, dans un an, il va y avoir plusieurs de vos amis qui vont se marier en même temps que vous, qui ne seront plus ensemble. Dans 5 ans, ça va doubler. Et moi, je vous avoue que je l'écoutais, mais ça me passait par-dessus la tête, là. Mais de plus en plus, j'ai côtoyé des amis qui étaient très proches de moi, qui aujourd'hui sont plus ensemble. Des amis qui étaient très proches, qui ont divorcé, puis avec du recul, puis je me rappelle les entendre parler. Plusieurs, je les voyais qui disaient, un particulier qui disait, ah ouais, mais on sait jamais, hein, tu sais, je veux pas avoir un compte conjoint parce qu'on sait jamais. Il y avait déjà cette notion d'engagement qui n'était pas là. Plusieurs qui se mariaient pour la pression des autres, parce que tous les chrétiens se marient, bien, il faut se marier. Plusieurs qui se mariaient parce que les parents leur mettaient la pression de dire, il faut se marier, puis c'est important dans notre famille. Mais finalement, c'est que leur mariage n'était pas bâti sur Jésus. Leur mariage n'était pas, les bons motifs, il n'était pas bâti sur Jésus. Et on a connu aussi beaucoup d'amis célibataires qui, contrairement à Séverine, eux autres, ils étaient comme, oh, ben, Dieu, là, moi je crois en toi, là. Moi je suis chrétien, là. Qu'est-ce que t'attends? Quand est-ce que tu vas l'amener mon homme ou ma femme? Puis quand c'est trop long, de dire, Seigneur, il y a un beau gars, une belle fille à ma job, puis il est pas chrétien, il est pas chrétienne, mais super gentil, fait que ça va être la personne avec qui je vais continuer ma vie. S'éloigne de l'Église, s'éloigne de Dieu, s'éloigne du plan de Dieu. Bâtissons nos vies, nos couples, nos familles sur Jésus. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Puis si on peut se lever ensemble, Mosaïque, On peut tous se lever ensemble ce matin. Dans quelques instants, on va chanter justement cette section de ce chant qui dit « Je bâtirai ma vie sur lui ». Si tu peux prendre la main de ton conjoint, de ta conjointe ce matin, puis qu'on puisse prendre un temps pour prier ensemble. Mais si tu es seul, tu es célibataire ce matin, tu es veuf, tu es veuve, juste lever ta main vers Dieu, sachant que tu tiens sa main, qui tient ton futur, si tu aspires à être en couple, tu aspires à te marier, ou que tu n'aspires pas nécessairement, mais que tu veux que Dieu t'accompagne, que tu veux bâtir ta vie, bâtir ton couple, bâtir ta famille sur lui. Juste le, si on peut commencer à chanter ce chant-là, puis commencer à prier l'un pour l'autre. On le fait, nous. On prie les uns pour les autres. Commencer à, dès aujourd'hui, de prendre l'engagement, de dire on prie les uns pour les autres. Mais si tu es célibataire, de prier devant ton Dieu ce matin pour bâtir ta vie sur lui. On chante ce chant ensemble et on prie ensemble, Mosaïque. Célibataire ce matin. Seigneur, alors que ceux qui, tu vois, peut-être, Seigneur, c'est difficile. C'est difficile pour eux, Seigneur, tu vois, que cette solitude-là, il y en a plusieurs qui aspirent à se marier, à rencontrer quelqu'un, à se marier éventuellement, soit avec eux, Jésus, soit avec eux, Père éternel. Dans ta parole, tu dis que tu as été tenté en toutes choses. Donc, tu sais ce qu'ils vivent. Tu vois leurs tentations, tu vois leurs défis. Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses leur rappeler que tu es avec eux et que tu marches avec eux. Seigneur, je te prie pour les célibataires qui, tu vas leur donner une révélation fraîche comme Séverine. Que le mariage, c'est pas une idole, Seigneur. Il y a des bénédictions dans le fait d'être célibataire. Que tu leur rappelles les opportunités qui viennent avec, Seigneur, mais que tu les encourages dans les moments difficiles parce qu'il va en avoir et il y en a des fois. Seigneur, je te prie pour nos couples. Seigneur, je te prie pour les couples, Seigneur, qui ont besoin de raviver leur couple, Seigneur, qui ont besoin d'aller vers le vert, des couples qui sont pris dans la routine, des couples qui ont besoin de communiquer, des couples qui vivent des défis au niveau de leur sexualité. On croit que la sexualité, c'est toi qui l'as créée et que c'est une bénédiction et que c'est autant spirituel que la prière. Je prie pour des couples qui vont commencer justement à prier ensemble. Seigneur, je te prie pour des couples qui réfléchissent au divorce, des couples qui ne communiquent plus. Tu les aides à se rapprocher en toi, Jésus. Et Seigneur, je te prie qu'on va avoir des célibataires en feu, des célibataires vers le vert et des couples vers le vert. Et ça va tellement avoir un impact dans notre ville, dans nos communautés, dans nos familles. Je te prie pour des conversations qui vont prendre place dans des groupes éléments, dans des autos aujourd'hui, dans des amitiés qui vont s'encourager à persévérer, à ne pas lâcher. C'est pas toujours facile. Seigneur, pour nous, on le sait, c'est pas toujours facile. Mais on sait que tu es avec nous, tu marches avec nous. Et merci Seigneur pour ce qu'on va voir prendre place dans les prochaines semaines à Mosaïque. Parce qu'on bâtit nos vies sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu va faire, Mosaïque? N'hésitez pas à en parler. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous vivez des défis, on est là pour vous. Venez nous rencontrer, écrivez-nous. On est là pour vous aider. Vous avez besoin de rencontrer un pasteur, un membre de l'équipe pastorale. Vous avez besoin de rencontrer Cathy, ma collègue, qui est une femme. Ça va nous faire plaisir. Et les animateurs et les membres sont là. Allez les voir. Ils vont venir vous voir. Donc, prenez le temps d'aller les voir. Et si vous êtes avec nous pour la première fois, venez à la zone bienvenue. Pour nous, c'est important de vous rencontrer. Bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine.